Aujourd'hui, place en première partie d'émission à l'art du perlage, revisité de façon toute contemporaine par des artistes autochtones et non autochtones à la Guilde. Alors, une façon pour in situ de souligner la journée intense des peuples autochtones qui va avoir lieu ce vendredi 21 juillet à la Guilde. Voici donc, pour nous préparer à cette journée spéciale de vendredi, pour nous préparer à aller voir cette exposition percutante, ben voici un entretien avec Karine Gaucher, directrice de communication et de la programmation à la Guilde, et Sylvain Rivard, artiste, auteur, consultant et co-commissaire au sujet donc de cette exposition Perlage contemporain à la Guilde jusqu'au 21 juillet et de deux autres événements dont il sera question dans l'entrevue. Bonne écoute! Une exposition inclusive qui intègre des artistes autochtones et non autochtones, et bien sûr des œuvres de maintenant et des œuvres de la collection. Ben, je suis absolument ravie de pouvoir m'entretenir avec Karine Gaucher, responsable, directrice des communications et de la programmation. Bienvenue.
Bonjour, merci de m'avoir ici aujourd'hui.
Et Sylvain Rivard, artiste, consultant pour cette exposition spéciale, mais artiste qui participe à cette exposition et aussi co-commissaire d'une exposition de la collection permanente. Bienvenue, Sylvain Rivard.
Merci, bienvenue, merci.
Une exposition donc qui, à mon avis, donne du sens, de la pertinence et de la créativité à cette manifestation. Si vous me parliez, Karine Gaucher, dans un premier temps, parce que vous m'en aviez parlé le soir du vernissage, de la genèse, l'histoire de cette exposition-là. Ça commence, je pense, par une exposition que vous avez vue à Québec.
Oui, en fait, nous, ce qui était vraiment important, en fait, la pièce maîtresse de l'exposition, ça a été vraiment la pièce de Nico Williams, Silence No More, qui a vraiment été un déclencheur chez moi de l'idée de travailler sur le perlage contemporain. C'était une œuvre que j'avais jamais vue avant. C'est une pièce quand même de 2005, faut quand même le mentionner. Mais c'est une pièce que j'ai trouvée absolument incroyable et ça m'a donné envie de voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme création artistique qui tourne autour du perlage. Et donc, évidemment, j'ai un de mes amis qui est allé à l'exposition de l'ouverture du pavillon La Sonde au Musée des Beaux-Arts de Québec et il a vu la merveilleuse pièce de Sarah Maloney qu'on a ici à la Guilde. Et c'est en fait, qu'est-ce que c'est, Chantal? C'est un bodysuit perlé. Donc, c'est un corps de femme perlé, un corps un peu flétri de femme, donc d'une grandeur naturelle, d'une grandeur à peu près 5 pieds 7. C'est extrêmement émouvant, cette pièce-là. Et quand je l'ai vue, je me suis dit que ce serait vraiment génial d'avoir aussi cette pièce-là. Et donc là, je travaillais avec un artiste autochtone, un artiste non autochtone qui est Sarah Maloney, et je me suis dit comment on pourrait faire rejoindre en fait cette technique-là qui est quand même universelle, la technique du perlage, au niveau contemporain. Donc de réunir en fait des artistes autochtones et non autochtones dans cette exposition-là. Ça a vraiment été de soi dès le départ du projet.
Et de favoriser à travers cette collaboration des échanges, ça c'est important dans le cadre de cette exposition-là.
Absolument. À la Guilde, on trouve ça extrêmement important de faire de l'éducation du public également, des artistes, des communautés autochtones également. On se met pas évidemment au-dessus d'eux, mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de créer un espace sécuritaire de dialogue où vraiment des autochtones et des non-autochtones peuvent entrer en communication, entre autres par la création artistique et également des personnes comme des visiteurs qui vont être confrontés à ce type d'art-là, qui vont avoir des questions évidemment, parce que c'est pas des œuvres traditionnelles comme on a l'habitude de voir. Donc ça, pour nous, c'est super important, le dialogue, comme tu viens de le mentionner.
Oui, tout à fait. Alors, comment expliquer justement cette émotion qui surgit quand on voit ce perlage un peu qui s'inspire de la tradition, qui est revisité? Peut-être nous expliquer un peu, parce que moi j'ai quelques explications, j'aimerais mieux que vous puissiez compléter, Karine Gaucher.
Bien, c'est bien que tu parles d'émotion parce que
peut se tutoyer peut-être.
Oui, c'est bien que tu parles d'émotion parce que en tant que commissaire, moi j'ai toujours énormément d'émotions quand je travaille sur des projets. Ce sont des pièces qui me touchent personnellement, que je trouve fantastique. Et ce qui est vraiment intéressant avec les pièces de perlage, ou d'où l'émotion, je pense que ça vient vraiment de ce savoir-faire ancestral qui est transmis de génération en génération et qui est parvenu, en fait jusqu'ici. En fait, tout ça, ça vient du fait
besoin de qu'une nation, qu'un peuple fondateur survive avec toute son histoire et sa richesse.
Mais tu fais bien de mentionner le mot survivre parce qu'en fait, tous les musées voient l'art autochtone. En fait, on a encore du chemin à faire, mais on vu l'art autochtone comme étant quelque chose à préserver, alors que ça a toujours été extrêmement vivant. Le perlage, la vannerie, le travail du cuir, ça a toujours été là. C'est les musées, quand est arrivée l'époque colonialiste, qui ont enlevé tous les objets qui appartenaient à ces communautés-là, puis ils ont mis ça dans des musées, mais ça n'a jamais été besoin d'être préservé. C'est ça qu'on célèbre présentement avec cette exposition-là. Je pense que c'est de là l'émotion dont tu parlais tout à l'heure. La célébration de la culture.
Oui, l'art autochtone qu'on constate plus vivant que jamais. Hein?
Tout à fait. Moi, présentement, je prêche pour ma paroisse en disant ça, mais je trouve que l'art le plus intéressant présentement, actuellement, c'est l'art autochtone.
Bon, ça tient de la position très engagée ou c'est vraiment une question aussi d'un commentaire artistique?
Esthétique, absolument. Il y a vraiment énormément de questionnements qui sont faits dans les œuvres, des œuvres de Beading, entre autres. On a les œuvres de Dana Dinger qui emprunte à l'esthétique pornographique, fétichiste. Un peu la même chose aussi pour Nico Williams, qui amène des messages extrêmement importants, des discussions à avoir au niveau des genres, au niveau de la communauté LGBTQ2. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement actuel. C'est vraiment une question aussi de fluidité, de mouvement qu'on va retrouver aussi. Comme par exemple, on a une œuvre.
On a qu'à penser que la communauté autochtone n'est pas unie, qu'elle est diversifiée elle-même.
Il y a seulement au Québec, il y a 11 nations autochtones.
Oui.
Donc, quand on dit autochtone, c'est pas un bloc homogène.
Homogène.
C'est vraiment, c'est 11 cultures différentes, 11 manières de voir les choses différentes, de voir le monde différemment. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Judy Anderson travaille avec son fils. Donc, encore une fois, on voit l'intergénérationnalité qui se retrouve dans les œuvres. Et elle travaille, en fait, à travers des designs de son fils qui fait du graffiti. Et elle perle le graffiti de son fils sur des pièces de cuir de caribou, entre autres, dans le cadre de l'exposition.
Un autre exemple d'œuvre de démarche artistique émouvante, hein? La mère, elle en... Le fils qui s'implique dans la même œuvre, qui est d'ailleurs magnifique. On a photographié les deux personnes interviewées à côté de cette œuvre. Bon, d'ailleurs, à côté de Karen Gaucher, un des artistes, mais non seulement un des artistes de l'exposition, Sylvain Rivard, consultant pour l'exposition Beading, Perlage contemporain. Bienvenue. Peut-être nous expliquer votre implication.
Donc, premièrement, comme artiste, bien sûr, j'étais vraiment impressionné par le travail de Karen qui avait fait ce choix-là. Et là, c'était un peu compliqué. Je veux représenter le plus possible l'autochtonie. Qu'est-ce que je prends, Sylvain, et tout. Et elle a eu l'idée d'incorporer, parce qu'on prépare une autre exposition du même coup, et puis elle a eu l'idée d'incorporer des pièces de la collection. Elle dit, pourquoi pas? Puis moi, je suis toujours pour l'éducation.
Quelle bonne idée, vraiment, là.
Oui, pour l'éducation du public, c'est important. C'est beau de se montrer, nous, en tant qu'artistes, où on est rendu, notre démarche à nous, notre pensée, mais ça vient de où? Et amener les gens avec nous. C'est bien de ramener le passé. Moi, je suis toujours à faire des ponts, ça va très bien avec ma démarche.
Et ça peut aider le public à comprendre ces nouveaux courants artistiques que peut-être qui rejoignent peut-être pas toute la communauté autochtone.
Pas seulement le nouveau courant, mais aussi le passé. Revisiter les vieilles pièces, faire OK, il y a tous des codes, il y a plein de codes dans différentes nations, la diversité, ça se voit très bien lorsqu'on met côte à côte des pièces anciennes et des pièces contemporaines. Et pour moi, je fais mon message est là, c'est ce que je fais aussi.
Pour moi, c'est un ravissement de voir ces œuvres-là côtoyer des œuvres de maintenant.
Et même quand elle me l'a demandé, j'avais simplement une pièce de disponible perlage, c'est ma grand-mère, qui est les semences, qui est la base de pourquoi je fais tout ça. Et j'avais perlé pour une autre exposition ma grand-mère. Et pour l'exposition...
C'est touchant, oui.
Oui, la base, c'est les savoir-faire. Pour moi, c'est les savoir-faire. C'est comme ma pièce ancienne. Et c'est comme ça. Et j'ai dit, ah, ben tiens. Et là, j'ai créé des pièces pour l'expo, qui est les enfants. qu'avez-vous fait de nos enfants? Aux quatre coins de mes pensées, j'ai dit, on a la grand-mère, maintenant on a le aujourd'hui. Même dans la démarche pour l'expo, j'ai fait le avant et aujourd'hui. Moi-même, je travaille toujours comme ça. Et là, j'ai créé des pièces avec les enfants, donc le futur. Et une autre pièce qui est aussi en conjonction avec la collection ancienne et aujourd'hui, que j'ai pris une pièce ancienne existante et j'ai fait une œuvre contemporaine avec. J'ai une insertion.
Inspirée de l'œuvre de la collection.
Dans l'œuvre est dedans. J'ai pris la pièce ancienne et j'ai créé une nouvelle œuvre. Je l'ai retravaillée, donc on l'a actualisée. On lui a redonné une cohérence. Et ça aussi, ça m'est venu en travaillant avec Karine sur les pièces de la collection, les pièces plus anciennes et tout. J'ai fait, ah, mais je pense que je collectionne aussi. Je pense que j'ai quelque chose, que je peux développer quelque chose. Et l'œuvre est venue dans mon atelier comme ça. Et elle était tout à fait pertinente.
Tout à fait. Alors, double implication, donc, comme artiste, en présentant des œuvres contemporaines et en puisant la collection. Vous impliquez régulièrement? Vous êtes assigné à la collection ici à la Guilde? Juste dans le cadre de cette exposition spéciale?
Non, pas juste dans le cadre de cette exposition, mais je suis consultant. J'avais déjà commencé mon travail pour d'autres expositions, dont l'expo permanente qui va être inaugurée vendredi. Mmh. Le catalogue aussi, si vous voulez vous joindre à nous vendredi.
Je la recommande, hein, je l'ai déjà vue.
Donc voilà, il va y avoir le catalogue qui va être lancé. Donc j'ai travaillé sur tous les cartels, reclassements et tout, voir les pièces les plus majeures. Et ça me fait plaisir. Je l'ai fait ailleurs avant. Et ici, quand j'ai vu la collection, c'est un ami qui m'a conseillé. Karine m'a dit, OK, commence, on va voir. Et ça a très bien été. Et là, c'est comme ça qu'on a aussi perpétué cette façon de travailler-là avec le reste de la collection. Il n'y avait rien qui avait été fait. Les cartels étaient vraiment minimes. Les informations étaient vraiment, vraiment tenues. Et puis là, j'ai fait... OK. Et c'est important, avec ce genre d'exposition contemporaine-là, on peut aussi travailler sur la collection Une pierre deux coups. Et pour moi, bravo, j'ai le Sylvain Rivard qui peut travailler en tant que consultant, ethnologue et tout, et Vinvard qui peut travailler en tant qu'artiste aussi. C'est un charme.
Ah, il faut continuer. Vous l'avez peut-être fait dans le passé, mais pas régulièrement. Hein? Alors, il faut continuer dans cette voie-là, d'intégrer des œuvres de la collection dans des expositions contemporaines.
Oui, en fait, c'est pas la première fois qu'on a eu l'idée d'intégrer des œuvres de la collection permanente. Par contre, c'est la première fois qu'elles sont aussi bien documentées. Et ça, c'est vraiment important de le mentionner. Sylvain a fait un travail monumental. Il appelle ses amis aux quatre coins du Canada pour être sûr comment...
C'est quelque chose?
Absolument. C'est vraiment un travail de longue haleine de faire de la recherche. Et pour une fois, on a vraiment les informations exactes pour les objets qui ont été tirés de la collection et qui sont intégrés dans l'exposition Bidignan. Je voulais mentionner aussi que quand on a fait la quatrième itération de la Biennale d'art contemporain autochtone, on a proposé aux co-commissaires d'ajouter des pièces de la collection dans leur exposition. Donc, on avait quelques paniers qui provenaient de la collection chez Armure, par exemple, dans le cadre de la BACA, et on avait également des pièces de notre collection également à la Guilde, évidemment. Donc, c'est pas la première fois qu'on le fait, mais c'est là qu'a émergé cette idée-là. Et de plus en plus, les pratiques autochtones en milieu muséal, juste d'avoir les bonnes informations, ça a l'air vraiment niaiseux de dire ça, là. Mais c'est pas tous les musées qui prennent la peine d'avoir les bonnes informations.
Oui. Lorsqu'on a travaillé aussi, l'important pour moi, ce n'était pas la pièce, mais c'était de joindre ça au travail des artistes que je côtoyais, c'est-à-dire les techniques, et de bien montrer les spécificités des techniques. Si on a un Nico Williams qui fait ça aujourd'hui, voici la pièce, voici ses ancêtres, voici d'où viennent les techniques, comment les pères ont utilisé les codes de chacun. Je parlais des codes, on les voit. On est capable de décoder, on voit la genèse de tout ça et de prendre des pièces qui nous montrent justement l'évolution et puis où s'est rendu tout ça, tout ce travail-là, toute cette accumulation de langage, parce qu'on parle avec la perle. C'est vraiment un langage.
C'est tout un travail, hein? C'est un travail artisanal qui nous ramène à une autre époque. C'est... qui nous rappelle une autre époque qui encore influence la communauté autochtone, bien sûr sans qu'elle s'en soit pleinement consciente peut-être. Parlons maintenant un peu de l'exposition un peu plus. Vous en avez parlé, Karine Gaucher, un peu de deux artistes. Peut-être on va commencer par Sylvain Rivard. Peut-être nous présenter votre œuvre, une de vos œuvres, de façon un petit peu plus détaillée.
Oui, bien, peut-être mon diptyque.
Oui.
Parce que lui, je l'ai vraiment créé suite à la demande de Karine qui avait vu ma grand-mère.
Oui.
Et puis, j'ai fait OK. Moi, j'avais fait ma grand-mère par besoin. Donc, on va commencer par justement la genèse. Ma grand-mère, par besoin. J'ai brodé sur peau, sur cuir, mais je voulais que ce soit que ça ait l'air du papier, mais c'est du cuir.
Ah!
Et c'est brodé sur du cuir, papier. J'aime confondre les gens et je ne voulais pas que ça ait une allure générale autochtone.
C'est une œuvre magnifique, étonnamment actuelle.
La Renaissance, ça peut avoir l'air mode des années 20.
Art
déco, parce que la photo a été prise dans les années 20.
Oui.
Et c'est vraiment art déco, vraiment les années 20, l'art vestimentaire des années 20, ou autochtone par les techniques. J'ai mélangé les trois en un, que ça n'est pas de style, que c'est ma grand-mère qui prime et non une ethnicité. Ça me fait faire l'œuvre dont je voulais parler.
Tellement d'importance.
C'est aux quatre coins de ma pensée. Je suis un très grand collectionneur de poupées, de poupées autochtones, et parce que la poupée me montre où les gens ils sont rendus au niveau socialement au niveau des autochtonies. Et puis les jeunes poupées me permettent aussi de voir le travail vestimentaire, le travail en miniature, ce que les gens font. Donc j'ai envoyé des poupées à un photographe. On a fait une session de photos, moi et les poupées, comme si on était cinq mannequins, cinq modèles. Et puis, on a ajouté ça ensemble dans ma tête, ce que je pense. J'écris comme quand j'écris ma poésie. C'est un poème perlé. Ce que je pense...
Vous êtes auteur aussi?
Oui, auteur. Donc, prochain livre bientôt, chez Mémoire d'en crier, chez Anénorac, où j'ai écrit sur les femmes violentées disparues et les enfants disparus. Et ceci fait suite à ça.
D'en parler, c'est d'importance.
Oui, mais ceci fait suite à ça. C'est les enfants, ce que vous faites à nos enfants aux quatre coins de ma pensée. Comment est-ce que ça m'attriste? Toute mon incompréhension face à tout ça. C'est pour ça que j'ai les yeux blancs. C'est dans ma pensée, à moi. Et c'est quatre poupées dans ma tête que j'ai perlées dans une espèce de coiffure de fantaisie. Et c'est des larmes de perles, des larmes de cheveux. Pour les cheveux aussi, je trouve que ça représente beaucoup les enfants et tout, en poils de cerf ou en poils de cheval, en crin. Et c'est vraiment, c'est une impression de choses. C'est comme ça que je vois mes pièces. Il y a un élément déclencheur. Là, aujourd'hui, les enfants. On parle beaucoup des femmes, mais on oublie là-dedans, ce qui suit, c'est les enfants. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ça. On commence là. Mais quand on parlait des femmes, moi, je pense aux enfants. Ces femmes-là disparues, puis ces femmes ont des enfants. Certaines sont des enfants. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit, je vais aller là. Et les gars, pas beaucoup d'hommes en ont parlé.
Mmh,
et c'est
vrai.
Les femmes autochtones qui m'ont dit, Sylvain, pourquoi tu dis... J'ai fait valider d'abord par mes amis poètes et artistes autochtones. Ils ont dit, vas-y. Et ça m'a aidé à faire cette œuvre. Pour moi, c'est une poésie perlée.
Oui, c'est une poésie, mais aussi, c'est une position très engagée.
Je suis pas un artiste engagé. Je suis socialement ouvert. J'essaie, moi, d'avoir une voix, de dire des choses que les gens n'ont pas la chance de dire. En tant qu'artiste, oui, je peux être sur scène ou je peux être derrière dans des collections. J'ai une voix. Donc, je peux parler pour ces enfants-là et ces femmes-là qui n'ont pas eu de voix. J'étais très heureux quand j'ai vu parce qu'on ne savait pas avec qui on était jumelés, et Karine le savait, mais pas nous, quand j'ai vu aussi le travail qui était fait sur les femmes. Je trouvais ça bien, moi. J'ai dit, j'ai comme le petit pendant à côté, ça va très bien ensemble, c'est vraiment complémentaire, les femmes et les enfants. Et pour les techniques, j'ai utilisé, puis j'étais content d'être le seul à faire cette technique-là, la technique de la pendille, qui était vraiment utilisée ici dans l'Est, dans le Nord-Est, chez les Wampanoag, chez les Iroquois, Wendat ou Ganengaga. On a vraiment utilisé plusieurs techniques, et je suis à peu près le seul qui a utilisé la pendille.
C'est vrai.
Pour la pendille.
C'est un apport très original.
Oui, puis j'ai dit, moi aussi, je peux amener. Il y en a qui ont fait la couture en aplat, dont on travaillait vraiment les formes pleines. Pour moi, qui travaille le perlage, j'ai dit, j'ai amené un petit quelque chose de différent des autres. Et ça me fait plaisir parce qu'on n'avait aucune idée.
Merci beaucoup, Sylvain Rivard, de nous présenter, de nous amener à visualiser votre œuvre. Ce qui est important, c'est de venir la voir de près. Peut-être avec Karine Gaucher, on a parlé de quelques artistes percutants tout à l'heure. On reviendra pas sur ces artistes, là, que ce soit Dana Danger ou Nico Williams. peut-être compléter avec d'autres artistes. On s'entretient d'ailleurs devant une œuvre absolument extraordinaire.
Oui, absolument.
Vraiment, résolument
contemporaine. Voilà. Donc, on retrouve encore une fois Judy Anderson, dont on a discuté tout à l'heure. Donc, encore une fois, c'est un peu dans la même lignée, c'est-à-dire que dans cette œuvre-là, Judy Anderson, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle fait, elle associe les couleurs traditionnellement associées aux points cardinaux donc le nord, le sud, l'est et l'ouest, et de la manière dont ça a été appris. Donc en fait, nous, le nord, le sud, l'est et l'ouest, ce sont un langage qui a été acquis. C'est pas un langage inné que Judy avait à cette époque-là, et c'est vraiment le fruit, le nord, l'est, le sud et le nord, c'est vraiment le fruit de la colonisation. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce savoir-là, cette connaissance-là, donc d'associer le rouge à un point cardinal, le bleu à un autre point cardinal, tout d'un coup, ce n'est plus valide. Ce n'est plus logique, les gens ne se comprennent plus à travers ça, et à partir de ce moment-là, ben ça a été le savoir occidental qui a tout d'un coup qui a primé sur la culture et les savoir-faire autochtones. Donc tout ça,
oui, de là toute la prédominance de la technique du perlage en ces œuvres à la fois simples, contemporaines et perlées.
Et si on se rapproche, parce que de loin ça a vraiment l'air d'être des carrés de différentes couleurs, donc blanc, jaune, rouge et bleu. Mais si on s'approche, on voit le nom ancestral de ces points cardinaux-là qui sont perlés selon un graffiti de son fils, encore une fois, de Cruz Anderson.
Écoutez, on ne pourra pas parler de tous les 11 artistes. Ce n'est qu'Anna Klaas, une artiste vedette. Peut-être en glisser brièvement un mot d'Anna Klaas, c'est une vedette. Hein?
Absolument. Anna, on s'était jamais vraiment rencontrés. J'étais souvent allée voir des conférences d'elle. Moi, j'ai parlé beaucoup avec Guy Sioui-Durand pendant plusieurs années depuis que je suis ici. Et Anna Klaas est également professeure à Kiuna, donc lui aussi et tout ça. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de l'approcher. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle va vouloir exposer chez nous avec moi comme commissaire et tout ça. Et elle a été emballée aussi par le projet. Ce qu'elle nous a fait, ce sont vraiment une multiplicité de visuels. Donc, elle a pris des photographies comme, par exemple, je donne un exemple, une rivière. Et donc, elle va multiplier cette image-là en reflets, en diagonale, etc. Elle va reproduire les motifs de perlage, mais juste en forme de forme un peu géométrique, et elle a rajouté des espèces de cercles qui sont vraiment en fait elle travaille beaucoup avec ça dans ses installations, donc des petites disques qu'elle
suspend en suspension,
tout à fait, et là on voit vraiment quelque chose de plus en aplat qui rappelle le perlage encore une fois par les cercles et qui rappelle le motif de perlage mais de vraiment de manière digitale. Donc, c'est vraiment une œuvre numérique. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, c'est ça, en fait. Elle et Nico Williams sont deux artistes qui ont amené des techniques...
Qui ont traduit l'art numérique dans l'art autochtone.
Tout à fait. Oui. Très actuel. Donc, on a Nico Williams qui travaille avec de la sculpture 3D, donc qui travaille avec des programmes, des logiciels informatiques pour faire son perlage. Il fait des choses extraordinaires. Et Anna Klaas qui travaille avec l'art numérique pour cette expo-là.
Mais il y a bien d'autres... Merci beaucoup, Karine Gaucher. Il y a bien d'autres œuvres à voir. On ne pourra pas tous les décrire. Peut-être avec Sylvain Rivard, une œuvre ici de la collection qui est vraiment magnifique, qui est à côté, justement, de l'œuvre de Judy Anderson.
Ceci est notre dernier choix à moi et Karine.
Ah oui.
C'est bien ce que vous le mentionnez.
Moi, j'étais un ravissement pour les yeux.
Et
le cœur.
Quand je l'ai vu juste à l'œuvre aux quatre directions, aux quatre couleurs, je trouvais que c'était tellement pertinent par la couleur, les perles sont très grosses. C'est vraiment plus grossière, plus grosse. Et je trouve que ça allait bien avec ces carrés purs là, très 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 mondrian un peu. Et on avait cette pièce là.
Et c'est une œuvre qui rit pour un bébé. privé, hein?
Oui, on savait pas. Tous les gens, s'ils ne le savent pas, c'était pas indiqué dans la collection, mais moi, je savais. J'en ai vu. C'est des porte-bébés, donc des courroies pour porter les bébés. J'ai dit, Karine, elle dit, je cherche une nouvelle pièce, Sylvain, je veux pas des mocassins, je veux autre chose. Et ça, j'ai dit, attends, parce que je suis passé la collection, j'ai sorti ça. J'ai dit, c'est un porte-bébé. Oh! Et là, on avait des motifs, on avait des techniques, on avait des couleurs qui étaient très contemporaines, beaucoup plus qui pouvaient se marier. J'avais vu la pièce.
C'est magnifique.
Quand on travaille en équipe comme ça, on fait, je pense que ça, tu vas aimer ça. Ah! Puis en plus, un porte-bébé.
C'est de quel artiste? Des années 60, hein, je croirais?
C'est Déné, donc anciennement les Athapascans, territoire du Nord-Ouest. Ils ont une façon de perler vraiment, vraiment métissée, amenée avec les sœurs grises dans l'émission vraiment, vraiment au Nord, les Oblats. Et puis, on le remarque tout de suite par les motifs et tout. Et puis, aussi entre Inuit et Première Nation, le rare est vraiment entre les deux, c'est le territoire. Puis, c'était vraiment bien de justement me dire, je veux pas de mocassin, je veux pas de sac, as-tu autre chose? Et tout de suite, porte-bébé. C'est comme ça. Quand on travaille et tout,
dis
ce que tu veux, oui. Et là, on va voir. Et là, pendant moi, j'avais pas vu où c'était pour être placé. Puis quand je suis venu, parce que j'avais cette idée-là, j'ai dit, ah, c'est comme ça que je la voyais, à côté d'une œuvre colorée. Et voilà.
Bravo. Félicitations pour cette intégration de cette œuvre hautement actuelle, hein? Et pourtant créée dans les années 60, si je me trompe. Oui, c'est ça. 1960. Écoutez, c'est étonnant. Alors, écoutez, c'est une exposition que je recommande fortement. Hein? Beading Now, le perlage contemporain, hein? Ça, jusqu'au 21 juillet. Merci de commenter cette exposition-là. Il faut venir voir cette exposition-là de près, mais on va parler en terminant des événements qui s'en viennent. C'est une semaine chargée pour la communauté autochtone. Peut-être nous présenter les grands événements à venir cette semaine.
Bien, vendredi, hein, on invite tout le monde à partir de 6 heures, donc dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones. On fait notre grande inauguration officielle de l'exposition permanente qui s'appelle Trilogie des matières. Donc, comme le nom l'indique, on a vraiment travaillé la matière, encore une fois.
Sélection dans la collection, mais en trois volets. Hein? Quels sont ces trois volets?
Donc, on a travaillé avec trois co-commissaires. Donc, on a Lisa Coperloup qui a travaillé comme commissaire de la section Inuit. On a Sylvain Rivard qui s'entretient avec nous aujourd'hui, qui est co-commissaire de la portion autochtone de l'exposition. Et on a Bruno Andrus qui est un expert PhD là, en métier d'art. Donc, on est très bien entouré là, pour cette expo-là. Et encore une fois, comme on parlait tout à l'heure des informations, ce sont des gens qui ont fait des recherches, qui sont allés chercher des informations supplémentaires. Et on va sortir aussi le catalogue d'exposition dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones vendredi. Donc, et on va avoir...
toute une programmation ce vendredi, hein? Je regardais, là, ça commence en après-midi, ça finit assez tard.
Bien, nous, en fait, c'est seulement en soirée. Donc, à partir de 18h, on a le lancement, l'inauguration officielle. Et ensuite, il faut rester avec nous parce qu'on a une soirée de poésie autochtone avec, entre autres, avec Joséphine Bacon, avec Sylvain Rivard, avec Maya Cousineau-Moline et Craig Comenda qui vont rester des poèmes en lien avec les métiers d'art également. Donc, il faut rester là, jusqu'à la fin de la soirée, jusqu'à 9h vendredi.
Quelle invitation extraordinaire. Et Sylvain Rivard, peut-être nous parler de la lecture que vous allez nous présenter vendredi.
Oui, donc lecture. Moi, je vais faire une lecture performance. Toujours. Faire une continuité avec ma poésie brodée. Maintenant, ça va être en mots, en parlure. Je vais mettre mon grain de sel. On essaie de tous se démarquer. Il y a Joséphine qui est notre aînée, notre grande poétesse qui est là. C'est toujours un honneur de réciter avec elle. Et puis Maya qui débute, qui est montante, figure montante de la poésie. Et bien sûr, Craig Comenda pour le côté anglophone. Ça nous prenait ça. Vous allez avoir un bel aperçu de ce qui se fait en poésie à Montréal. Et voilà, donc on vous attend. Moi, en chant, en parlure, en dorure et en parure.
Et en exposition aussi, il y a beaucoup à voir ici, des œuvres à profusion, et très bien sélectionnées. Vraiment un beau commissariat. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine de célébration, hein, en particulier vendredi.
Inda Kagwe.
Merci Chantal.